Aujourd'hui, la masterclass de Jane Evelyn Atwood avec Arnaud Laporte.
Nous ouvrons à présent la masterclass de Jane Evelyn Atwood, qui est ici à la Bibliothèque Nationale de France. Le principe de cette collection d'émissions est le suivant, savoir comment une artiste travaille très concrètement pour essayer d'approcher les conditions d'exercice de son art. Alors peut-être avant de véritablement débuter, je me permets de rappeler que vous êtes américaine, née à New York.
Franco-américaine.
Pardon, franco maintenant américaine.
Je suis très fière de ça.
Mais...
c'est depuis pas longtemps, j'ai voté pour la première fois.
Je ne vous demanderai pas ici pour qui. Vous vivez en France depuis 1971.
Oui.
Votre travail structuré, on va en parler évidemment dans cette masterclass autour de projets au long cours qui peuvent vous mobiliser sur plusieurs années pour explorer au plus précis, au plus loin des mondes ou des communautés humaines qu'on considère souvent comme à la marge. On va parler de ça, de cette possibilité d'inclure ceux qui sont exclus par votre travail. Le premier travail, disons d'importance, était consacré aux prostituées de la rue des Lombards. Il y a eu depuis les aveugles, les malades du sida, les femmes en prison, la Légion étrangère, les victimes de mines antipersonnelles. Haïti, bon, d'autres encore, nous, on en évoquera certains. Il y a eu des événements que vous avez couverts, là, d'une façon plus, non pas journalistique, mais sur le moment, le tremblement de terre de Kobe, les attentats du 11 septembre, la Convention démocrate de 2004, également, beaucoup de livres publiés. Là aussi, c'est un chapitre important de la discussion qui va s'ouvrir avec vous, Jane Evelyn Atwood, parce que les livres ont leur grande importance, et puis publication aussi dans des revues, dans des magazines à travers le monde. Et puis vous dire aussi, on y reviendra, que vous avez reçu quantité de prix, je ne vais pas tous les énumérer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais alors, reprenons du début pour savoir comment la photographie est arrivée dans votre vie. Quelle a été l'impulsion de départ qui vous a amené vers ce drôle d'objet? Est-ce qu'il y avait un photographe dans la famille, dans l'entourage? Est-ce que c'est de voir les photos des autres qui vous a donné envie d'en faire?
Il n'y avait aucune chose dans ma famille qui m'a poussée vers la photographie. Je dirais même que je viens d'une famille intellectuelle et mon père pensait que les gens qui regardaient les photos étaient bêtes. Il fallait lire, plutôt. Donc, à l'époque où Life Magazine avait les meilleurs photojournalistes qui existaient, nous, on n'avait pas Life Magazine à la maison. Quand j'arrivais en France, je suis venue ici avec un sac à dos, pas pour rester le reste de ma vie. Et je suis toujours là. Et je suis venue pour voir, parce que je savais pas trop quoi faire. J'avais fait mes études dans le théâtre et je savais que je voulais pas être actrice. Et donc je me suis dit, bon, si je sais pas quoi faire, c'est peut-être plus intéressant de faire ça en France qu'aux États-Unis. Au moins, je vais voir la France. Et mes parents avaient habité à Paris en 67-68, et je suis venue les voir, et j'adorais Paris. J'ai tombé amoureuse de Paris. Et je me suis dit, à l'époque, je vais revenir ici. Et donc, c'est ça que j'ai fait. J'ai décidé de rester après l'été avec le sac à dos, et je parlais pas français. Je suis devenue jeune fille au pair dans une famille. Et j'ai appris le français des enfants dans la famille, plutôt. Suite de quelques problèmes personnels, j'étais très, très névrosée et j'ai commencé un psychanalyse. Et c'était avec cette psychanalyse que ma créativité était débloquée. Et j'ai trouvé ensuite la photographie. Mais pourquoi la photographie au lieu d'autre chose? Tout ça, c'est à cause d'une exposition que j'ai vue quand j'étais toujours aux États-Unis, des photographies de Diane Arbus. Et je me souviens, je suis allée à cette expo avec ma sœur, pas pour les photos, parce que nous, on savait absolument rien de tout de la photographie, Mais on savait que Dean Arbus s'était suicidé. Et on avait eu un suicide dans ma famille et on était assez obsédés et perturbés par ça. Et on est allé avec une curiosité de ça. Et quand j'ai vu les photos qu'elle avait faites, et surtout des gens dans ces photos, c'était pas les photographies en soi, c'était des gens, des personnes dans les photos. Ces personnes-là m'a jamais quitté. Et donc, je me trouvais à Paris, je ne savais pas quoi faire, je cherchais quoi faire avec ma créativité parce que j'avais toujours été créatif. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un peu de photos. Et de là, quelqu'un m'a dit, je ne savais rien des appareils de photos. D'ailleurs, je ne m'intéresse pas du tout dans les appareils de photos, même aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais quelqu'un a dit, un Nikkormat, c'est un bon appareil. J'ai pu acheter un Nikkormat. Et je me suis dit, je vais copier Dean Arbus, je vais trouver des gens très intéressants. Comment faire ça? Il y avait des vernissages tous les mardis soirs à Paris, plutôt pour la peinture à l'époque, parce qu'on avait presque pas de photographie. On était en 72, 73, 75, par là. Et j'ai commencé à aller dans les vernissages et j'ai trouvé beaucoup de gens très ennuyeux. Mais j'ai quand même rencontré une femme qui m'a dit qu'elle connaissait une prostituée. Dans la conversation comme ça, elle m'a dit ça. Et moi, j'avais vu les prostituées dans la rue. Elles étaient fascinantes. J'avais jamais vu ça. Moi, j'ai pas vécu dans une grande ville. Je savais pas que les prostituées pouvaient être dans la rue. Et elles étaient belles. Elles étaient incroyables. Et j'ai voulu les connaître, tout simplement. Et la photographie, paradoxalement, m'a donné cette occasion de les connaître. Et donc, quand cette femme a dit qu'elle connaissait une pute, j'ai dit, mais ramène-moi. Et on est allé tout de suite 19 rue des Lombards. Et c'est juste à côté de Châtelet. L'immeuble est toujours là. C'est exactement le même immeuble. Malheureusement, le quartier est très changé maintenant. On est entré dans le couloir. Il y avait quelques prostituées dehors. Il y en avait dans le couloir aussi. Une ampoule nue donnait une faible lumière. C'était très crade, il y avait une odeur de pisse. Les femmes fumaient beaucoup, ils écrasaient leurs mégots sur le mur. Donc il y avait des grandes marques noires sur les murs. J'avais peur, j'étais très impressionnée, mais en même temps j'étais extrêmement excitée parce que je me sentais que j'allais où j'ai voulu vraiment être. You know, un truc totalement inconnu et interdit en plus. J'adore les interdits. J'adore les découvrir. J'adore les pénétrer. J'adore les connaître. Et ça, c'était le premier. Et ça a commencé comme ça.
Oui, mais tout de même, Jenny Evelyn Atwood, quand vous rentrez dans le 19, au 19 rue des Lombards, vous avez acheté cet appareil photo, mais entre les deux, vous avez appris, vous avez fait des essais. Il y a quelqu'un qui vous a expliqué comment ça marchait, la lumière, les objectifs.
Rien
comment vous
de
avez,
tout.
Vous avez appris en photographiant toute seule?
Oui, j'étais à l'école 19 rue des Lombards. Non, mais vraiment. Je dirais même que j'ai appris tout ce que j'ai besoin de savoir. J'apprends toujours, hein, avec chaque sujet, j'apprends. Mais j'ai tout appris dans cet immeuble. You know, j'ai appris la lumière et surtout le manque de lumière. J'ai appris la patience, hyper important pour ce que je fais. J'ai appris d'écouter. C'est encore plus important que de regarder presque dans le travail que je fais. Ça peut te sauver la vie d'écouter. J'ai appris de ne pas être trop gourmande, de savoir quand il faut pas faire la photo. C'est aussi très important. Tu peux te faire tuer si tu sais pas ça. J'ai appris d'utiliser mes instincts et de compter sur mes instincts. J'ai appris beaucoup à propos des hommes et des femmes et les pouvoirs et les manques de pouvoir et l'argent et le manque de l'argent et la terrible pauvreté sexuelle, j'entends, de quelques hommes qui viennent à 19 rue des Lombards et payent un fric fou pour avoir enfin une sorte de maigre satisfaction. Parce que quand j'ai commencé à faire des photos dans cet immeuble, je ne connaissais rien de la prostitution, rien de la photographie, et j'ai appris peu à peu que ces femmes-là spécialisaient dans les clients masochistes. Et en fait, elles ne couchaient pas avec les clients. J'étais inscrit quand même dans un cours de laboratoire pour les tirages et les développements des films noirs et blancs, parce que je n'avais pas un rang. Et il fallait bien que je développe mes propres films. Et c'était à l'ancienne Centre Américaine, qui était un endroit magique à l'époque, où il y a la Fondation Cartier aujourd'hui. Et dans ce cours de photographie, je crois que c'était une fois par semaine, il y avait un jeune homme qui s'appelait Patrick Bonsard. Et il était français, et il s'intéresse à la photographie comme moi, et il m'a vu arriver avec des photos des prostituées. Et il voyait que je connaissais rien de la photographie. Et il m'avait vu aussi rue des Lombards, parce qu'il avait un ami rue Quincampoix, et il m'avait aperçu dans l'immeuble. Et voilà que je trouve dans le même cours de photo que lui. Et il m'a dit, mais vous connaissez rien de la photo? Il a dit, je connais des gens qui peut-être peuvent vous donner un coup de main. Il m'a dit, il était stagiaire à l'agence Magnum. Moi, je ne savais pas qu'est-ce que c'était Magnum. Il m'a dit qu'il était en train d'éditer des planches contact de Leonard Fried, grand photographe américain, malheureusement décédé maintenant. Et il m'a dit, si vous voulez, moi je peux faire un rendez-vous avec Leonard et tu peux le rencontrer et peut-être il peut te donner un coup de main. Et donc, heureusement, j'ai dit oui, même je ne savais pas qui c'était cette personne, mais j'ai dit oui et on a fait un rendez-vous. Et j'ai tiré autant de 18-24 que je pouvais faire de mes prostituées. Et on faisait le rendez-vous chez Patrick. C'était une toute petite studio rue de Cherche-Midi. Il y avait juste la place pour un grand lit et presque rien d'autre. Et donc, toutes mes photos étaient étalées sur le lit. Et l'idée, c'était que Leonard allait regarder quelques minutes des photos et après on allait dîner ensemble. Et alors, il était là, il était assis sur le lit. On était tous assis sur le lit avec ses 18-24 et à un moment donné, Leonard a pris une photo et il a commencé à la regarder, il a commencé à parler de ce qu'il voyait dans la photo. Et il voyait des choses que moi, je n'avais pas vues. Et il a dissecté vraiment visuellement cette photo. Et il était tellement passionnant, je l'absorbais, mais comme une éponge. Et très rarement, je posais une petite question très timidement parce que j'étais très, très impressionnée. Mais il m'a nourri. Et en fait, on n'a jamais mangé, on a parlé toute la nuit des photos, littéralement. Je crois que je suis partie vers 4 heures du matin. Et lui, il était mon prof de photo, si vous voulez. Il est venu seulement peut-être deux fois dans l'année, parce que j'ai travaillé un an sur la rue des Lombards, tous les nuits, pour faire ses photos. Et peu à peu, j'ai utilisé ce qu'il m'avait dit et j'ai appris. Au début, je ne savais même pas faire la mise au point. J'ai des photos qui sont floues. Et je suis devenue très amie avec une prostituée qui s'appelait Blondine. Je pense que elle était curieuse de moi comme moi j'étais curieuse d'elle.
Mais au fur et à mesure du temps, Jane Evelyn Atwood, vous avez donc appris à regarder mieux les photos que vous tiriez. Qu'est-ce qui vous est resté de cette première nuit avec les photos étalées sur le lit et qui fait qu'une image vous semble plus riche, plus intéressante qu'une autre? Qu'est-ce qui détermine qu'une image a plus de valeur qu'une autre?
Pour moi.
Pour vous.
Et ça, c'est seulement moi.
Mais c'est de vous. C'est vous qu'on a envie d'entendre ici.
Il faut que la photo émue la personne qui la regarde. Si une photo, si une image te laisse indifférent, c'est une photo ratée. Et la photo, pour moi, peut être totalement sauvage. D'ailleurs, je préfère ça. Certainement pas parfaitement prise, mais s'il y a une force dans cette photo, si c'est un claque, si ça te émue d'une manière ou une autre, c'est une bonne photo probablement.
Mais ça, généralement, est-ce que vous le savez au moment de la prise de vue ou parfois il y a des surprises au tirage?
Il y a toujours des surprises. Il y a des mauvaises surprises comme il y a des très bonnes surprises. Pour moi, la planche contact est hyper importante. J'aime rien que je vois sur mes planches contact. Je regarde vite et je suis très déçu. Il faut que je laisse un peu de temps et après je re-regarde et après je regarde vraiment chaque photo. Il y a 36 ou 37 photos sur la planche avec une grosse loupe et là je vais trouver les photos. Mais je peux regarder des années après aussi et trouver d'autres photos que j'avais pas vues au début. Hein.
Ben c'est vous qui avez changé entre-temps, c'est pas la photo.
Exactement. C'est moi qui a changé, la vision change. Je me souviens avec La rue des Lombards, parce que La rue des Lombards est devenu mon premier livre qui a été publié en Allemagne, une toute petite publication, presque inconnue ici. Et j'étais très jeune et j'étais même embarrassée de mes propres photos. Leonard Fried m'a dit, il faut que tu entres dans les chambres avec des clients. J'ai pensé, il était fou, je me voyais pas avec une prostituée et le client ensemble dans la chambre. Ça m'embarrassait, aussi c'était dangereux. Et au même temps, je savais qu'il avait absolument raison. Parce que si j'allais faire un livre, et à ce moment-là, déjà j'avais décidé d'essayer de faire un petit livre, il fallait aller jusque dans les mâchoires de la bête. Si je peux dire comme ça. Et quand on entrait dans le studio de Blondine, c'était une toute petite studio. Tout de suite à droite, il y avait une salle de bain. Et je me suis glissée dans la salle de bain parce que je ne voulais absolument pas me trouver dans le studio avec ce client et cette prostituée. Et Blondine, entre-temps, elle est en train de parler et parce qu'elle est, c'était une très très bonne prostituée. Elle a organisé tout immédiatement. Elle a essayé de mettre à l'aise l'homme en question. Elle a excité sexuellement. Elle lui a raconté ce qu'elle allait lui faire. Lui, il était dans une position de humiliation, vraiment, parce qu'il a besoin de ça. Probablement, il comprend même pas pourquoi il a besoin de ça, mais il est prêt à payer une somme assez forte pour ça. Et il voulait juste que ça commence et que ça soit terminé, au fait. Donc, il fait pas attention à moi. Il fait attention à rien sauf la parole de la prostituée. Et cette prostituée-là était en complète commande de la situation. Et à un moment donné, je regarde par la porte et il y a un miroir en face sur le mur et je vois la scène, une scène de Jean Genet, au fait, avec Blondine qui est en train de fouetter ce client. Et avant ça, elle avait mis une cagoule sur sa tête. Pas pour moi, en tant que photographe, mais c'était génial, en tant que photographe. Mais parce que ça les excitait sexuellement. Moi, tout ça, j'ai appris comme ça, je ne savais pas c'était comme ça. Mais quand j'ai vu la scène, j'ai fait la photo. Et j'ai eu ma photo. Donc, c'est pour vous dire que vous ne savez jamais qu'est-ce que vous allez avoir quand vous allez faire des photos.
Est-ce qu'on voit, Jane Evelyn Atwood, avec ce travail sur la rue des Lombards, c'est que c'est une expérience absolument fondatrice. Bon, c'est le premier travail photographique, le premier long projet, mais j'ai l'impression qu'il y a déjà tout ce qui va constituer votre façon de travailler par la suite, c'est-à-dire un sujet qui vous attire, qui vous intéresse, vers lequel vous vous sentez poussé, et puis du temps, de la patience, de l'écoute. Et revenir inlassablement. Alors jusqu'à quand ça, on en parlera, quand est-ce que ça se termine. Mais finalement, dès la rue des Lombards, vous trouvez votre façon à vous de travailler?
Tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça que j'ai dit que c'était vraiment mon école. Parce que j'ai découvert que j'adore travailler à longue haleine comme ça. Après, quand je suis devenue vraiment professionnelle et tout, à un moment donné, j'étais dans une agence Contact Press Image où Robert Pledge, qui est une grande amie, il voulait que je fasse du news. Alors, j'ai fait un peu de news pendant 2 ans, je crois. Ça m'a barbé. J'avais toujours faim. J'étais envoyée ailleurs. Je pouvais pas supporter ça. J'ai voulu me plonger dans le sujet et le connaître de A à Z. Je voulais pas le quitter. Et aussi, je suis trop nerveuse pour faire du news. Il faut du news, il faut des reporters qui font ça. Mais c'était pas pour moi.
Mais comment un nouveau sujet arrive après un travail? Est-ce que vous savez, est-ce qu'il y a un réservoir mental ou est-ce qu'il y a des idées, des envies que vous avez depuis très longtemps et un jour c'est le moment ou est-ce que ça survient comme ça pour vous?
Survient, ça veut dire quoi?
Ça arrive d'une façon imprévue.
Ça arrive imprévu. Hein. Ça arrive imprévu, mais au début, quand j'ai fait la rue des Lombards, parce que j'étais très jeune et vous savez, j'ai jamais voulu être photographe, je savais pas qu'on pouvait être photographe, j'avais pas cette rêve et je pense que c'est une erreur si le but c'est d'être photographe. Déjà, vous n'êtes pas un photographe hein, parce que c'est pas un but en soi. Mais moi, j'avais des choses à dire et des choses se présentaient. Je voulais parler avec des images et des fois avec l'écriture aussi de ces choses-là. Presque toujours, c'est quelque chose de visuel. Dans la vraie vie, à la télévision, dans un magazine ou un journal, je vais voir quelque chose et ça m'intrigue. Et je dis, je voudrais
une
bien,
image.
Je
veux... Souvent une image d'abord.
Souvent une image ou quelque chose que j'ai lu. Hein. Ça peut être quelque chose que j'ai lu. Ça m'intrigue. Ma curiosité is picked. You know, je veux le faire. Pas tout de suite, mais presque tout de suite, je décide je vais le faire. Et là, je suis mordu par le sujet, je dirais. Alors évidemment, la chose la plus difficile, c'est l'argent qui paye le sujet. Hein. Mais à l'époque, pendant des longues années, j'ai travaillé au PTT. Believe it or not. Au PTT, et je travaillais les matins. Et donc, j'étais libre l'après-midi. C'est là où j'ai dormi. Et j'ai fait les prostituées toute la nuit. Et après, j'ai fait d'autres sujets un peu moins connus parce que j'ai pas publié les livres. Mais quand j'ai commencé Mes Aveugles, par exemple, un long travail de 10 ans sur les enfants aveugles, les premières écoles étaient à Paris ou Saint-Mandé, dans les environs. Et là, j'ai travaillé toujours au PTT. Et donc, c'est ça qui m'a permis, financièrement, j'entends, de faire ces photos-là. Et parce que j'ai développé, j'ai tiré mes propres photos... c'était moins cher, je voyageais pas en cours, des grands voyages, donc je pouvais le faire.
Mais est-ce qu'il y a eu des sujets parfois, Jane Evelyn Atwood, qui vous ont mordu, mais après quelques temps, vous avez dit non, en fait, c'est une fausse piste, il faut que j'arrête ce travail-là. Ça vous est arrivé?
Oui, ça m'est arrivé. Je pense à une en particulier, c'était un travail sur la pauvreté. Et un travail bon, très évident, tout le monde photographie la pauvreté, et j'ai commencé le travail. En fait, j'étais trop jeune pour faire ce travail. Je me souviens plus quand j'ai commencé, mais j'étais pas assez maturée, et je l'aimais pas du tout. I mean, moi qui aime passer beaucoup de temps avec les gens que je photographie, je pouvais pas supporter de passer du temps avec des clochards qui étaient ivres morts, dégoûtant, qui avait rien à dire qui était intéressant, qui était des fois violent, et gratuitement violent pour une bêtise, je pouvais se faire voler un appareil ou être tapé. Ça m'a barbé et j'ai arrêté. J'ai vu que c'était pas pour moi.
Parce que ça veut dire qu'il faut toujours, pour vous, qu'il y ait un lien, quelque chose qui, une relation qui puisse advenir, alors de nature, j'imagine, des fois assez différente, mais quand même, qu'il y ait une connexion entre vous et ceux que vous allez photographier.
Oui, mais bien sûr, mais même si c'est un paysage, il faut qu'il y ait quelque chose qui fait que je suis habité par le sujet. Hein? Mais la chose qui était intéressante, et la raison que je parlais de ce sujet sur la pauvreté, c'est que des années après, I don't know, 25 ans après, Delpierre m'a offert une commande, Robert Delpierre, sur exactement le même sujet, la pauvreté. Et là, j'étais à la fin de mes prisons, 10 ans de prison, et...
Je précise un travail sur les prisons. Hein. Jane Evelyn Atwood n'a pas passé 10 ans en prison pour une peine qu'elle aurait, pour un crime qu'elle aurait commis.
Oui, mais ça va peut-être venir, mais bon. J'avais besoin d'argent et c'était une bonne commande, je pouvais pas le refuser. Donc, j'étais poussée de faire, j'étais forcée de le faire. Et ça m'a obligée de le faire. Et d'abord, j'étais seule, j'étais dans les rues, j'étais dans les métros, j'étais dans les distributions de nourriture par toutes sortes de NGO et Secours Populaire et Coluche et tout ça. Je me suis vu insulter de tout le monde, viré de partout, parce que beaucoup de gens qui s'occupent des pauvres, ils pensent qu'ils possèdent des pauvres et les photographes sont pas le bienvenu. Finalement, j'ai vu un jour un SDF qui était peut-être mort, je ne sais pas, il était dans la rue, et les pompiers sont venus. Et ils l'ont ramassé. Et donc, je me suis dit, bon, il faut que je sois avec les pompiers. Comme ça, je vais arriver d'être au cœur de ce sujet. Parce que j'avais pas beaucoup de temps qui me restait. Et je me suis mis avec la caserne de Château-Landon dans le 10e arrondissement. Ça n'existe plus maintenant. Et on avait le garde de l'Est, le garde du Nord, Aubervilliers, Barbès. On avait tout ce que vous voulez. Mmh. Et un peu que vous voulez pas. Et j'ai fait le sujet avec ça.
Alors, comme vous parliez de paysage à l'instant, Geneviève Atwood, on n'a pas parlé des grands choix formels. Alors, il y en a un qui est quand même majeur, c'est la question du noir et blanc. Et si je parle de paysage, c'est qu'on va parler d'Haïti, que c'était un choix très important, oui, que ce soit là, en couleur. Alors, pardon, la question est on ne peut plus simple à énoncer, mais pourquoi le noir et blanc ?
Au début, c'est vrai, c'était économique, parce que je pouvais développer mes propres films et je pouvais pas payer les diapositives. Hein. Ça coûtait très très cher. Mais aussi, j'aime beaucoup le noir et blanc. Je pense, si j'ai une préférence, pour le noir et blanc. Hein. Le couleur aussi, à l'époque, pour moi, il n'y avait pas de couleur très intéressant. You know, et c'était quand j'ai vu Alex Webb et Harry Griert plus tard, qu'il y avait une couleur qui m'a parlé. Mm. You know. Pour nommer juste deux, j'ai pas une bonne mémoire, mais je parle surtout d'Alex Webb parce que quand j'ai commencé Haïti, j'avais ces photos en tête. Hein? Je réfléchissais pas en couleur. Et quand j'ai fait Haïti, j'ai réfléchi en couleur. C'est comme quand vous parlez français, vous traduisez pas, vous parlez français, vous pensez en français. Et c'était comme ça, et c'était très excitant, parce qu'au début, quand je suis allée à Haïti, je ne savais pas si j'allais faire couleur ou noir et blanc. Et je suis allée avec les deux, you know, sans pellicule noir et blanc, sans pellicule couleur, incroyable, mais vrai. Et j'ai commencé en noir et blanc, et je crois que c'était le deuxième jour, vers 4h de l'après-midi, j'avais mis un couleur, et j'ai commencé à voir en couleur, et c'était comme un déclic absolument extraordinaire. Et je pensais en couleur comme je pense en français, et je regardais en couleur et je voyais en couleur.
Vous avez dit sans pellicule couleur, sans pellicule noir et blanc. Tout à l'heure, vous avez dit, Jenny-Emilienne Atwood, que les appareils photos, ça ne vous intéresse pas, les marques, etc. Mais est-ce que vous avez plusieurs appareils photos ? Comment vous choisissez vos objectifs, vos focales ? Est-ce que vous avez une façon particulière de procéder, ou est-ce que c'est à chaque projet que s'impose tel appareil plutôt que tel autre?
C'est au début, j'avais cette Nikkormat, et très vite, quand j'ai rencontré Leonard Field, il m'a dit, tu peux pas travailler avec ça. Il te faut un Leica. Alors, je savais qu'est-ce que c'était un Leica, mais j'avais pas pensé à acheter une, mais j'ai acheté un Leica occasion à l'époque, et je suis avec les Leica depuis. Au fait, quand j'ai fait la Légion, j'ai acheté le 5 parce que le 5, M5, c'était le seul qui avait une cellule dans le boîtier. Et je travaille toujours avec deux objectifs, un 50 mm et un 35. J'ai deux boîtiers sur moi. Et avec la Légion, j'ai pris la lumière avec le M5 et je l'ai traduit pour le M3 et j'ai fait les photos comme ça. Dès qu'ils ont inventé le M6, j'ai vendu le M5 pour pouvoir acheter le M6. Parce que le M5, c'était le seul M qui était plus grand que tous les autres M. Et le boîtier était trop grand pour mes mains, au fait. C'est un merveilleux appareil, mais c'était trop grand. Donc, j'ai acheté les M6, j'avais 3 à une époque. Et quand le M7 était inventé, où ils ont Le truc, ils ont la cellule, bien sûr, mais ils ont aussi automatique, priorité à la diaphragme. Et j'ai pas honte de le dire, j'utilise en automatique parce que la cellule est si bien. Si vous savez utiliser bien la cellule, ça vous fait une garde du temps absolument extraordinaire. Je veux pas gâcher tous les mythes de la photographie, mais je travaille en automatique avec deux optiques, un 50, un 35. Et si je dois travailler en digital, j'utilise l'iPhone. Voilà. Le seul moment que j'ai changé d'optique, c'était quand j'ai fait Sentinelle de l'ombre, mon travail sur les mines antipersonnelles, et j'ai acheté un panoramique, le X-Pan de Hasselblad, qui est beaucoup comme la Leica, le boîtier exactement comme la M, et j'ai voulu le format panoramique, parce que j'ai voulu montrer la terre qui va à vue d'œil, mais qui est minée. J'ai voulu montrer ces mines, comment c'est impossible de déminer un pays qui est miné. Et donc j'ai commencé comme ça, mais après j'ai utilisé aussi cet appareil avec les nombres. Une ligne d'hommes, chacun qui manque une jambe. Tous les jambes avec le panoramique. Les femmes aussi avec leur jupe ou leur robe. Et une jambe qui manque chaque fois. J'ai utilisé cet appareil pour ça.
Comment vous choisissez les moments où vous photographiez et ceux où il faut mieux pas photographier?
Je ne photographie pas tous les jours. Même quand j'étais plus jeune, je ne photographiais pas tous les jours. Je fais beaucoup moins de photos maintenant, malheureusement, à cause de mon âge, à cause de toutes les choses administratives que je dois faire, les expositions. Avant, j'avais toujours mon Leica sur moi. Et maintenant, je suis presque toujours en train de porter des tirages ou d'autres choses. Donc, automatiquement, quand on a une vie qui est une réussite de photos, on arrive à un moment où on organise plus que la prise de vue. On est une victime de sa propre succès, je dirais, sans aucune prétention. Mais bon, je fais moins de photos. Mais au fait, ça m'a jamais, même quand j'étais jeune, ça ne m'a pas gêné de ne pas photographier tous les jours parce que je photographie, c'est comme une explosion. Et après, il y a un temps de réflexion, de quand j'étudie mes planches contact, quand je pense comment je vais faire ça, qu'est-ce qui manque, est-ce que je pouvais refaire ça, etc. Il y a tout. Je pense beaucoup aux photos que j'ai faites, tu vois. C'est nécessaire d'avoir ce temps. C'est pas du tout un temps mort. C'est un temps absolument nécessaire. quand j'étais en prison, bon, j'avais été photographe depuis très longtemps. Quand j'ai enfin pu entrer en prison, j'avais une certaine, je dirais, maturité de photographie que j'avais pas avant. J'aurais pas pu faire ce sujet quand j'étais très jeune, hein. C'est un sujet absolument énorme. Ça finissait d'être international. J'étais dans 9 pays, 40 prisons en tout. Ça a duré 10 ans. C'était absolument énorme, hein. Et la demande, pour entrer, c'est ça qui a pris la plupart des 10 ans. Hein. Quand la prison disait oui, on va vous laisser entrer, il fallait répondre tout de suite. Autrement, eux, ils ont pas de, ils veulent pas que vous entrez. Donc, si vous bougez pas, c'est fini. Hein. J'ai demandé du début 7 jours dans chaque institution parce que 7 jours c'était le minimum pour moi. Chaque jour de la semaine, quelque chose arrive en prison. Il fallait que je sois là pour avoir le minimum. Alors, 7 jours, c'est énorme pour une prison, de permettre à une journaliste d'entrer. J'ai demandé seulement les prisonnières de droit commun. J'ai pas parlé des terroristes. J'ai pas parlé des prisonnières politiques parce que je savais que ça m'empêcherait encore pire de pouvoir entrer. Donc, et aussi, j'ai travaillé dans les prisons de femmes, hein. Et je pense que ça jouait un peu dans mon faveur parce que personne prend très au sérieux des prisons de femmes, hein. Ni des femmes d'ailleurs. Maintenant un peu plus, c'était temps. Mais c'était intéressant parce que j'ai fait plusieurs demandes pendant des années, quand c'était un gouvernement de droite, quand c'était un gouvernement de gauche. Ça changeait rien. Tout le monde disait non. Et finalement, il y avait un livre qui a été créé par Yann Arthus-Bertrand et, comment il s'appelle, Visa pour l'image. Jean-François Leroy. Pour le bicentenaire de la France, en 89. Un grand livre, what we call a coffee table book, avec une centaine de photographes qui étaient invités. Et il nous a dit, chaque photographe va travailler, ça s'appelait trois jours en France. Et que chaque photographe allait travailler trois jours sur un sujet, le sujet de son choix, en principe. Et ils allaient faire ce livre pour montrer qu'est-ce que c'était la France. Mais ils disaient, Mitterrand est derrière le livre, ça va être un livre sérieux, ça va pas être un livre bidon. Dis-nous ce que vous voulez vraiment photographier. Donc moi, j'ai écrit prison. Au fait, il y avait 26 photographes qui a demandé prison. J'ai appris ça après. Ouais. Mais heureusement, et je ne sais pas pourquoi, il m'a donné la commande. Mais le ministère de la Justice était derrière, a surveillé tout, a donné toutes sortes de restrictions. Et la première restriction, c'était Jane Evelyn Atwood, c'est une femme. On ne peut pas le permettre d'entrer dans une prison d'hommes. Elle va aller dans une prison de femmes. Et j'étais très déçue. Je me suis dit, il me casse dans une prison où rien va arriver. Vraiment, j'étais très déçue. J'avais cette vision d'homme derrière les barreaux parce que jusque-là, c'est tout ce que moi j'avais vu. Mais parce que je suis professionnelle, j'ai dit, bon, je vais le faire, ça va être ennuyeux et tout. Et quand j'entrais dans cette prison, la première maison d'arrêt, c'était à Toulon. C'était un tout petit endroit. Je crois qu'il y avait 8 détenus. Et ils avaient peint la prison en pastel pour ma venue. You know, pour que ça soit joli. J'ai vu les conditions absolument déplorables dans lesquelles ces femmes vivaient, et surtout quand j'ai écouté leurs histoires, j'étais absolument sidérée. Je me suis dit, mais personne ne parle de ça. Il faut que je parle de ça. Et quand je suis sortie de cette prison, et j'ai obéi le ministère de la Justice, je n'ai pas photographié des visages. J'ai travaillé en couleur parce que j'avais besoin de la couleur, parce qu'il y avait beaucoup de couleurs avec les murs en pastel et le soleil du sud et tout ça. Et j'avais que 3 jours, j'avais pas de temps pour moi, donc j'ai fait en couleur. Et tout le monde était très contente. Et après ça, j'ai refait une demande. Et la personne au ministère, parce que je suppose elle était contente de mon travail pour 3 jours en France, enfin, elle m'a accordé des prisons en France. Alors, il y avait une discussion, visage ou pas visage. Elle m'a dit, il faut respecter l'anonymat de la détenue. J'avais, moi, un avocat à l'époque, comme j'ai aujourd'hui un avocat. Et il m'a demandé, est-ce que ce sont des mineurs? J'ai dit, non, j'ai pas le droit de photographier des mineurs, c'est des femmes adultes. Et ils m'ont dit, mais si elles sont d'accord, vous les photographiez. Et c'est ça que j'ai fait.
Jane Evelyn Atwood, quand on travaille sur une si longue durée, comme c'est la plupart du temps le cas pour vous, comment est-ce que vous savez qu'un travail est terminé?
C'est une bonne question.
Ah, ça en fait une, c'est bien.
Ouais.
Non, ça en fait une.
Non, mais Leonard Fried m'a dit, moi je lui ai posé la même question. J'ai dit ça, sincèrement, c'est une bonne question. Mais Leonard Fried disait, quand il commence à faire des erreurs, par exemple, s'il laisse tomber un optique par terre ou quelque chose comme ça, peut-être c'est le temps de wrap it up and go home, you know. Moi, je reste toujours un tout petit peu trop longtemps. Parce que j'ai toujours peur que j'ai pas eu assez. Et je me suis dit, je vais jamais retourner ici. Il faut être sûr d'avoir assez. Il y a ça. Et aussi que ça me rend triste de penser que je ne vais plus être avec ces gens-là. Et d'ailleurs, je ne peux pas me permettre de penser que je ne vais jamais plus rentrer en prison, parce que si je pense comme ça, c'est trop triste pour moi. Et au fait, même après que mon livre est sorti, j'ai pu rentrer dans d'autres prisons. Donc, ce n'est jamais vraiment complètement terminé, même si le livre est publié.
Mais pour les autres sujets? Pour la rue des Lombards ou pour les
aveugles,
c'est la même
chose. C'est la même chose parce que.
Qu'est-ce qui fait? Vous avez ce qu'il faut et vous rendez compte qu'il faut arrêter.
Je pense que c'est quand j'ai compris le sujet et ma relation au sujet. Et c'est une sorte d'aller-retour entre moi et le sujet tout le temps, tout le temps, tout le temps, en répétition, jusqu'à ce que je dis, voilà, c'est bon. J'ai enfin compris qu'est-ce que c'est ça. Tu vois, parce que les prisons, vous avez l'embarras du choix. Il y a des billions de prisons partout dans le monde entier. J'ai fait un tout petit peu en faisant 40. Mais je pense que mon livre, quand même, explique qu'est-ce que c'est l'incarcération féminine.
Et est-ce que l'écriture a une place importante dans le fait de réaliser, de comprendre et effectivement de pouvoir mettre un terme au travail photographique? À quel moment ça intervient, l'écriture, pour vous?
You know, c'est pas toujours important. Je sens quand c'est important. Au début, avec le premier livre sur les prostituées qui était publié en Allemagne, c'était le tout premier éditeur. Après sa foirée avec cet éditeur, donc le livre n'était pas publié avec lui, c'était un éditeur aux États-Unis. Mais l'éditeur m'a dit, c'est toi qui dois écrire le texte. J'avais rien écrit, j'avais pris beaucoup de notes, mais j'avais rien écrit. Et parce qu'il m'a poussé, j'ai écrit le texte, c'était 3 pages de texte. Il m'a dit, je veux que ça soit personnel, que tu me dis pourquoi ta relation avec Blondine, pourquoi tu voulais travailler ce sujet-là, comment c'était d'être dans l'immeuble avec elle, des choses très personnelles. Et donc, j'ai écrit le texte comme ça. Et c'était mon première expérience avec un texte, avec mes photos. Malheureusement, cet éditeur, qui était un très bon éditeur, pour l'anecdote, la personne la plus importante dans la maison d'édition n'était pas dans la réunion qui a accepté mon livre. Et quand il est retourné, il a vu qu'ils allaient publier un livre sur les prostituées de la rue en France. Il a dit, pas de questions. Et moi, j'avais signé un contrat. Ils ont cassé le contrat. Et c'est là où j'ai pris mon premier avocat. Et cet avocat m'a défendu. Elle a récupéré l'avance qui, à l'époque, était 3 000 $, 1 500 quand j'ai signé le contrat. J'aurais dû avoir les 1 500 à la publication. C'était pas publié. Ils avaient mes photos. L'avocat a dit, vous nous envoyez les photos. On va pas vous faire un procès et vous nous envoyez les 1 500 $. On est en 1978, je pense, c'était. Et donc, ils étaient tellement contents que j'allais pas faire un procès. Probablement, immédiatement, ils ont envoyé les 1 500 $. J'ai acheté une deuxième Leica. J'avais mes photos et j'ai commencé à chercher une autre maison d'édition. Mais ça m'a brisé le cœur. J'étais vraiment déçue. Et finalement, j'ai trouvé cette petite éditeur en Allemagne et le livre a été publié en Allemagne. Mais des années après, il y a 5 ans de ça, 4 ou 5 ans, Édition Xavier Barral a republié ce travail dans un livre complètement différent du premier. Moi, je pense que c'est le plus beau livre que j'ai. C'est un grand éditeur, c'est un créateur. Il est si créatif que nous, les photographes, si pas plus. Et c'était absolument remarquable de travailler avec Louis.
Alors justement, les livres, on l'a bien compris, au cours de cette masterclass, Jane Atwood, sont importants pour vous. Vous pensez, quand vous lancez un projet, vous pensez au livre davantage qu'à l'exposition? C'est le livre qui est le...
Je pense jamais à l'exposition. Je pense au livre, mais pas tout le temps. Je fais beaucoup de, entre guillemets, petits sujets. Petit par petit, je veux dire, parce qu'il n'y a pas de petits sujets, plus courts, j'entends.
Oui, oui.
Et je, qui ne devient pas livre, ou peut-être beaucoup plus tard, il deviendrait livre, parce que maintenant, on a beaucoup plus de possibilités pour les livres. Qu'est-ce que c'était la question?
Mais pour vous, la finalité, c'est l'objet livre.
Yeah,
c'est
mais
lui
quand je décide de faire un livre... c'est très important pour moi. Si je fais un sujet long à l'aine et c'est un sujet en profondeur, il y a beaucoup de matière et tout, oui, pour moi, ça doit aboutir avec un livre. Et c'est à ce moment-là que je pense exposition, après le livre, parce que l'exposition, pour moi, c'est un pub pour le livre. Moi, j'expose pas pour m'exposer moi, je m'en fous de moi. C'est mes photos, je veux que les photos soient vues, je veux que la publicité pour le livre existe et que... On voit les deux ensemble, idéalement.
Mais vous trouvez qu'on voit mieux votre travail dans un livre que les photographies exposées Sur les
mieux, non, on voit différemment. Tous les deux, ça peut être absolument génial. You know, j'ai eu des expos extrêmement beaux à la MEP, à la Botanique. Trop de peine à la Villette était extraordinaire comme exposition, uniquement sur les prisons. Mes livres, je suis très contente avec les livres que j'ai faits. J'ai fait ces livres avec beaucoup, beaucoup de mal. J'ai 10 livres pour le moment. 5 de mes livres sont sortis avec l'appui de mon avocat pour me défendre éditorialement, oui. J'entends.
Mais quelles sont vos exigences alors?
Pardon?
Quelles sont vos demandes particulières quand vous travaillez avec un éditeur?
Que l'éditeur soit honnête avec moi, oui, d'abord, bon. Numéro un. C'est pas une question d'argent. Je suis jamais payée pour mes livres jusqu'ici. C'est qu'il respecte mon point de vue. C'est moi l'auteur, c'est moi le photographe, c'est moi qui a passé 10 ans avec des femmes derrière les barreaux, etc.
Mais vous proposez par exemple vous-même vos maquettes, vous proposez des typographies, vous proposez la couverture.
Quand j'étais jeune, je ne savais pas assez pour proposer tout ça. Quand tu travailles avec Xavier Barral, c'est lui qui fait le livre. Mais si tu travailles avec Xavier Barral, tu comprends que c'est un génie avec qui tu vas travailler et tu l'as choisi pour ça. You know, on était au fait complètement synchronisés, on travaillait ensemble. On a eu un seul argument à propos d'une photo que moi j'ai pensé était une photo de trop. Finalement, il a éliminé. Je ne sais pas s'il a éliminé parce qu'il pensait que j'avais raison ou parce que il pensait que c'est mon livre et il s'en foutait. Je ne sais pas. Mais ce n'était même pas une dispute. You know? Par contre, non, je ne vais pas finir avec Xavier Barral trop vite parce que c'était une telle expérience géniale que, I mean, par exemple, la couverture de ce livre, on disait, oh, on ne va pas mettre une photo, on ne savait pas quoi mettre. On essayait peut-être on voudrait reproduire le papier peint qui était un peu baroque, qui était sur le mur du studio de Blondine, quelque chose comme ça. On discutait beaucoup comme ça. On cherchait sur l'internet différentes couleurs, des textures et des choses comme ça. Un jour, je suis allée dans son bureau, il n'était pas là. Et les femmes dans le bureau m'ont dit, il est à Versailles. Alors, il est rentré de Versailles, il avait pris du mur de la palace de Versailles, ce que vous voyez maintenant sur la couverture de mon livre Rue des Lombards. Le motif venait de Versailles. Alors ça, c'est un éditeur que tu veux travailler avec, tu vois. I mean, c'est absolument remarquable. Et on était, même les pages rouges, on a trouvé ça. Mais lui, il a fait la séquence, tu vois. Moi, je lui donnais la possibilité de faire la séquence parce que j'estimais qu'il faisait mieux que moi. On était toujours ensemble, il a fait les séquences, il a fait mes commentaires, on a changé certaines choses. Donc on a fait ensemble, mais c'est lui qui a fait le livre.
Mais c'est une expérience assez singulière, c'est une chose qu'on demande régulièrement aux artistes d'inviter dans ces masterclass de France Culture, c'est de savoir s'ils aimeraient, ou s'ils ont déjà fait d'ailleurs, s'ils aimeraient retoucher une œuvre, c'est-à-dire un écrivain, reprendre un livre, un cinéaste, refaire un montage. En fait, avec ce livre, avec Xavier Barral sur la rue des Lombards, vous avez pu refaire un livre à partir d'un même travail. Vous auriez envie de continuer, vous lancez l'appel à Xavier Barral, de reprendre d'autres travaux plus anciens de Jane Evelyn Atwood et de faire de nouveaux livres,
plus récents. Toujours. Non, mais j'espère un jour de ma vie de retravailler avec Xavier, ça c'est sûr. Mais si je pouvais travailler uniquement avec lui, je serais ravie. Mais il faut dire que maintenant, il y a des très bons maisons d'édition. Hein. Il y en a deux ou trois.
Le Point du Jour.
Où j'ai envie de travailler avec eux aussi. Tu sais, on est gâtés maintenant. Avant, on avait très peu de possibilités. Maintenant, il y en a beaucoup.
Vous avez envie de reprendre comme ça des anciens travaux pour faire de nouveaux livres parce que peut-être ceux qui ont été faits avec l'avocat n'étaient pas si bien que ça.
Non, mais c'est pas parce que c'est ancien travail que ça vaut d'être publié. Il faut que ça soit assez bon pour être publié en livre. Il faut que je regarde. Peut-être j'en ai quelques-uns, mais j'en ai pas beaucoup, je suis sûr.
Mais vous préférez de toute façon le sujet en cours, le sujet qui arrive. Vous regardez beaucoup les anciennes photos?
Je préfère pas. C'est que je suis en train de travailler. Donc quand je suis en train de travailler, je suis habité par ça et je ne vais pas me bifurquer sur autre chose, normalement. Il se trouve que maintenant, juste la semaine dernière, j'ai eu une demande pour justement un ancien sujet et j'espère que ça va se faire. Je suis absolument ravie si ça se fait. Je pense que c'est assez bon d'être publié. On est en train de discuter tout ça maintenant. C'est pas Xavier Barral, c'est quelqu'un d'autre. J'espère que ça va se faire et je serai très contente. C'est tout à fait exceptionnel que ça se passe comme ça parce que je suis en train de faire un sujet depuis 3 ans et d'être arrêtée pour regarder un ancien sujet et faire une maquette de ce sujet et tout ça comme j'ai fait ces dernières 7 jours me bouscule beaucoup, mais je suis très contente de le faire, je crache pas de tout dans la soupe, je serai ravie si ça arrive.
Mais justement, quand vous travaillez sur un sujet au long cours, on parle pas du sujet actuel, mais des autres, est-ce que vous avez besoin de montrer certaines images à des gens dont la vie vous importe? Est-ce que vous avez envie de qu'il y ait un regard sur le travail qui est en cours?
Absolument, absolument. Et j'ai même aujourd'hui, à l'âge de 70 ans, avec tous mes livres derrière moi et tout, je dois avoir une deuxième, voire troisième opinion. C'est très important. J'ai appris ça de Leonard Fried aussi. Avant, j'avais des gens, certains gens, Robert Pledge, Marc Riboud, ma galerie maintenant, Jean-Noël de Soie, il a un très bon œil. Je lui montre beaucoup de choses. Mais pas tout de suite, pas quand je suis en train vraiment de travailler. Et à un moment, quand j'ai fait assez pour pouvoir vouloir montrer, à ce moment-là, je vais montrer. C'est très important, oui.
Ça permet parfois de reconsidérer certaines images, de vous dire que peut-être quand vous pensez qu'il manque, parce que vous avez toujours besoin de, vous avez toujours peur de manquer, peut-être qu'on peut vous rassurer en vous disant là il y a la matière.
Oui, well, je sais maintenant, je suis assez, j'ai assez d'expérience de savoir qu'il y a de matière quand même, mais il y a certaines photos où c'est souvent où il y a 2 photos et je peux pas choisir entre les 2. J'aime les 2, je dis est-ce que c'est plus fort ou pourquoi, hein? Même dans Trop de peine, il y avait cette cas de figure avec le sauna. En fait, j'avais 2 photos du sauna dans les prisons en Russie. Une qui était faite dans la prison des jeunes filles, 17 à 26 ans. Et c'est la photo qui est hyper connue maintenant parce qu'au fait, c'était cette photo qui a été publiée dans le livre Trop de peine. Mais j'ai une autre photo qui est pas très connue, qui est une verticale dans la prison de femmes, pas de jeunes filles. Une photo verticale avec 2 femmes qui se lavent, une est assise dans le bassin. Elle est un peu corpulente, elle est en train de rigoler, un peu comme un phoque sur un rocher. Tu vois, l'autre est derrière elle avec une grosse bassine en métal en train de laver ses vêtements. Et c'est lugubre parce que c'est le sauna de la prison en Russie en 1990, donc c'est très noir, mais il y a une belle lumière quand même qui est sur les corps nus et des seins et tout ça. Et j'avais, quelle photo est-ce que je vais mettre dans le livre? Alors, parce que le livre, il y avait 122, je pense, photos. J'ai pensé que c'était trop de mettre 2 saunas. Parce qu'il y avait beaucoup de prisons de d'autres pays et je pouvais pas me permettre de mettre 2 photos du sauna en Russie. Donc, j'ai dit laquelle je vais choisir. J'étais vraiment dans un problème. Et finalement, j'ai choisi la photo avec les jeunes filles parce que j'avais pas beaucoup d'accès dans cette prison et j'avais très peu de photos dans cette prison. Et finalement, j'ai choisi cette photo à cause de ça. Mais la chose, c'est que l'autre photo reste totalement inconnue. Et je me souviens, quand Willy Ronis l'a vu, il était fâché, il a dit, mais pourquoi c'est pas dans le livre? Alors, je lui ai offert la photo et je lui ai expliqué pourquoi.
Mais à propos du regard des autres, Jane Evelyn Atwood, comme on arrive au terme bientôt de cette masterclass, est-ce que vous êtes sensible aux prix, aux récompenses? J'ai dit en début que vous avez reçu de nombreux prix. Est-ce que ça compte?
Ça compte, je vais être très honnête, ça compte s'il y a de l'argent. On a besoin d'argent. Alors, quand j'ai eu le prix W. Eugene Smith, j'ai travaillé au PTT, j'avais une toute petite salaire. J'ai jamais pensé que j'allais gagner ce prix. Il y avait des grosses légumes qui demandaient le prix aussi. J'ai dit pourquoi même. C'est Leonard Fee qui m'a poussé. Il m'a dit vous allez pas l'avoir, mais fais un dossier. C'est le moment de faire un dossier. Ça va vous montrer ce que vous avez et tout. Donc j'ai fait ça. Et il se trouve que j'ai gagné ce prix. Et ça m'a énormément aidé parce que vraiment j'avais pas un rond et j'étais vraiment j'avais besoin de cet argent. Et alors après, mais aussi ça m'a perturbé parce que j'ai pensé il se trompait. Pourquoi Marilyn Mark n'a pas eu ce prix? Pourquoi Eugène Richard n'a pas eu ce prix? Et j'étais très, j'ai pensé je vais décevoir tous ces gens. Je suis pas à l'auteur. J'aurais pas dû avoir. J'ai fait tout ça aussi. Et ça m'a perturbé beaucoup. Après j'ai eu d'autres prix et encore une fois. On est contente pour la reconnaissance. C'est vrai, on a besoin que quelqu'un dise ce que vous avez fait est important et merci. Ça mérite ce prix. Mais maintenant, moi-même étant sur quelques jurys, je vois aussi comment ça se passe dans les jurys. Comment s'il y a quelqu'un fort dans un jury, il peut tourner un jury pour voter d'une manière ou d'une autre. Et je trouve ça désolant. Il y a des gens dans les jurys qui connaissent rien de la photo, je ne sais pas pourquoi ils sont sur les jurys, etc., etc. Alors je suis assez, les prix, il faut pas. Leonard Fried encore une fois m'a dit ça. Il m'a dit vous demandez un prix s'il y a de l'argent, ça peut vous aider, mais après vous oubliez ce prix. Si vous avez ce prix, c'est très bien. Si vous n'avez pas, ça ne fait rien. Vous continuez votre photographie. La photographie ne commence et ne va pas finir avec les prix. Voilà.
Alors, la photographie ne va pas commencer ou finir, mais on va finir cette masterclass, James Evelyn Atwood. Et justement, est-ce que la question de la postérité, ça vous importe?
Avec mes images?
Oui, avec vos images.
Bien sûr, j'espère qu'ils vont durer. J'espère qu'ils vont durer. C'est un grand problème pour nous qui, à mon âge, il y a beaucoup de photographes qui ont des archives très importants. On ne sait pas quoi faire avec ces archives. On ne sait pas où ils vont aller. On ne sait pas qui va s'occuper de ces archives. Moi, j'ai pas d'enfants. En plus, c'est un cadeau empoisonné pour les enfants. Les parents laissent leurs archives. C'est un réel problème. J'espère que la France serait un peu plus en avant. On a un ministre de la Culture maintenant qui apprécie beaucoup la photographie. J'aime beaucoup cette femme et j'espère que ça va être un peu plus sérieuse avec ce qui se passe avec les archives photographiques en France.
Voilà, pour finir sur un message envoyé. Merci infiniment, Jane Atwood.
Merci à vous.
C'était la masterclass de Jane Evelyn Atwood avec Arnaud Laporte. Coordination Arnaud Laporte, attaché de production Shushan Jergaillan.